que la route dépaille, mais elle est quand même toujours un peu ce souci de comprendre comment on doit manier comme le dit, etc. C'est un élément, un ensemble divers, difficile à unir, et qu'il faut quand même garder la diversité. Voilà. Je crois, personnellement, que pour l'avance, dans la réflexion sur Aristote, de la diversité physique, on dit ça, première lecture facile, puis on a le vent, la diversité difficile. Je crois qu'il faudrait arriver à comprendre ce que représente cette super science, cette méta-science, l'épistémée est au niveau de la philosophie de nature, au niveau de l'éthique, au niveau de la philosophie du vivant. Là, on a l'épistémée, au sens aristotélicien. On a la découverte de causes propres.
était à la télévision, voilà, que ces textes sont difficiles à comprendre. C'est bien évident. Il faut dans la physique, on va être constamment dans des interprétations. Permettre de voir que le livre Zeta et le livre Theta sont les deux grands axes de la physique. C'est pas dit explicitement dans Aristote, c'est quand même dit. C'est quand même dit, parce qu'Aristote dit textuellement que lorsqu'il s'agit d'une lettre, il n'y a plus qu'à consommer la consommer. Il est très conscient que nous ne pouvons pas saisir une cause propre de ce au niveau du tien, au niveau de la cause efficiente. Il n'y a que l'interrogation qu'est-ce qui permet d'apparaître. Ça, c'est très important. Il n'y a que l'interrogation qu'est-ce qui permet d'apparaître. Et cette interrogation qu'est-ce qui est un affaire, bien comprendre ce que c'est. Même si on ne comprend pas très bien le grec, il doit le comprendre. Tiesti, qu'est-ce ce qui est du point de vue de l'être. D'accord, ça fait mal. Cette interrogation qui est première et qui va traverser tout le livre de Zeta, qu'est-ce nous y a. Évidemment, contrairement tout le contexte d'Aristote, hein, qui n'est pas du tout nôtre. Le contexte d'Aristote, c'est face à Platon. Or, l'Ousia, Platon, n'a jamais refusé. Donc même, c'est Platon le premier qui l'a introduit en philosophie. C'est une question qui peut être discutée, mais je ne crois pas que l'Ousia soit mise en doute. Je crois pas. Donc l'Ousia, c'est vraiment Platon qui l'a introduit. Alors, il y a des projections, parce que vous savez bien, on ne connaît les textes antérieurs que par les fragments. Et donc par le fait même, c'est très très difficile. Je crois qu'avant, c'est la fausse. Existe et la terre. Et parmi nous, nous en avons plus. Et la fausse. La première division grecque. La première division grecque, c'est ça. C'est la fausse, le premier physicien. Comme dit Aristote, les premiers physiciens, ce sont les premiers philosophes grecs. Et les premiers physiciens, ce sont justement ceux qui sont tous la physique. Physique, c'est d'être une. Habituellement, pensez un peu en grec, je ne sais pas vous dire ça. Mais de dire physique, c'est plutôt nature, ça vaut mieux physique, ça, c'est quelque chose de plus concret que nature. Voilà. Les premiers physiciens, c'est ceux qui la physique. Une Parménide arrive en disant l'être, le don est mal, le esprit, ce qui est bon, et le homme, le temps, les âmes, les hommes. Parménide découvre quelque chose d'au-delà de la phosis. Et la phosis, c'est justement cette découverte que fait Parménide. Parallèlement à Parménide, vous avez Héraclite, deux philosophes qui ne vont jamais séparer, toujours les prendre l'un par rapport à l'autre. Héraclite, c'est l'homme du mouvement. Bien, dès qu'on pense à Héraclite, on dit tout de suite Pantarei. Alors quand vous avez vu Pantarei, vous savez très bien ce que ça veut dire. Le Pantarei. Tout coup, vous ne pouvez pas descendre deux fois dans le même fleuve. Tout à fait. À nos vies, quand on est un peu interrompu, pas ce morceau, c'est un pareil. C'est Héraclite, tu vois. Et tout nos vies, c'est le symbolisme du palmarès, ça coule tout le temps. C'est jamais deux générations de mecs qui reviennent, ça change tout le temps, c'est le palmarès. Ça, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Héraclite, c'est l'homme du devenir. Donc c'est l'homme de l'expérience. Quand vous êtes collé au réel, ça change. C'est pas banal. Ça change. Mais en même temps, n'oublions pas, et c'est là où on a ramené toutes les rapides pas banal, c'est pas juste, les rapides cherchent à découvrir là. Au-delà de ça, on a le regard de sagesse. Et entre deux, il y a le feu. C'est philosophique encore très symbolique. Le feu joue un rôle très important dans cette quête. Parce que le feu permet justement de maintenir l'unité à travers les camarades. Ça, c'est un point de vue très intéressant dans le feu joue un très très grand rôle dans toute la philosophie grecque. Parce que c'est, n'oublions pas que le feu, c'est aussi l'élément le plus le quatre éléments, c'est bien le quatre éléments. Et le feu, c'est l'élément qui fait le lien entre le pantarem et la lumière. Et donc, quelque chose qui nous permet de rejoindre l'un deux éléments. Quand vous regardez la philosophie grecque avant Platon, avant Socrate, les pré-socratiques, comme on aime de dire, mais on ne veut pas trop le dire aujourd'hui, parce que Heidegger n'aime pas cette expression, il me comprend très bien, alors il faut faire un petit peu plus attention, il ne faut pas trop mettre tout ça dans le même sens, et comprendre que c'est vrai, il y a une grande montée philosophique, et dans cette grande montée philosophique, on peut dire qu'il y a deux choses qui commandent tout, la phagis, qui commande tout le devenir, la phagis, matière, la phagis, et puis je crois que Platon introduit quelque chose de nouveau, la forme en soi. Et le point de vue de l'oubliant. Et le point de vue de l'oubliant égale le théorème. Là, nous sommes en face d'un domaine qui est très particulier, le domaine de l'invisible, c'est le domaine de l'âme. Je crois que toute la pensée de Platon est commandée par la recherche de l'âme. Je crois. Je crois que c'est l'âme qui est la grande intuition de Platon. On comprend très bien à partir de Socrate, comme les autres. C'est l'âme. C'est pas le corps. C'est pas... Platon n'est pas hanté par le corps. Il le supporte. Il est monté par l'âme. Et alors, il voit l'intelligibilité de l'âme par la forme en soi. Et la forme en soi, c'est l'ouzien. Donc le terme ouzien, il me semble, hein, on ne peut pas l'affirmer d'une sorte. Je crois que personne ne peut l'affirmer d'une sorte sur lui, on sera toujours des données de recherche. Mais c'est quand même intéressant d'essayer de ponctuer cette grande montée vers Platon. Platon est le premier grand philosophe d'une grande synthèse. Synthèse extraordinaire, grande synthèse philosophique. Et alors, c'est l'âme et l'ousien qui est au cœur de la pensée. Vous savez très bien comment Platon appelle l'ousien. L'ousien, la substance. On traduit substance. J'aime mieux revenir à l'ousien. Heidegger le fait, nous pouvons le faire. Tout à fait, vous avez le droit de prendre l'ousien. L'ousien, c'est presque traduction. Parce que vous voyez, l'ousien est lié à toi. Cœur en sortant, il parlait de l'ousien, il disait il est temps, si je veux bien, c'est ainsi que j'ai bien avancé, j'ai vu des l'ousien. Parce que plutôt que d'inventer un mot, je crois qu'il vaut mieux revenir au terme grec, tout en comprenant que substance, entre le français et le grec, il y a eu le latin. Et le latin a traduit l'ousien, substantia. Ils sont très mal. Ça sort quelquefois très mal. Vous voyez, je suis désolé, ça me voit d'une maladresse extraordinaire. Quand vous regardez ici, c'est pas toujours très fin. C'est la rhétorique. Il y a beaucoup de rhétorique. Alors, on comprend comment, de fait, il y a peut-être traduit de cette manière-là. Je n'entre pas dans la question, mais j'ai oublié pas vraiment pour Platon. Mais alors, Platon, dans les rapides, un dialogue qu'on doit aimer beaucoup, les rapides, pour ceux qui aiment les étymologies, pour ceux qui aiment le passage du point de vue du mythe à la pensée du logos, la pensée grecque du logos, vous aimez beaucoup le Cratyle. C'est passionnant. Bien, le Cratyle, c'est un livre qui essaie de donner des étymologies. Alors, Platon se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'histoire ? Alors, il donne des étymologies. Nousia, c'est Hestia. Hestia, c'est la déesse qui demeure. C'est très très joli. On retrouvera ça dans la Bible. Nousia, c'est la préjudice. C'est ça. C'est comme, si vous voulez, c'est comme la profondeur de l'être. On est présent. L'être est présent. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout une analyse, on est d'un petit air poétique. Mais c'est toujours intéressant. Je crois qu'avant de découvrir le logos, il faut tout le temps retrouver un peu le halo affectif pour ne pas cérébraliser. Cérébraliser, pas du logos grec, à l'être de raison logique. Alors à ce moment-là, vous voyez, ça peut m'aider. Vous savez, des philosophes qui n'ont pas vu toute la chose, on est comme les nouveaux riches. Et les nouveaux riches, en point de vue philosophique, c'est effrayant. C'est la cérébralisation. Alors, nous comprenons, il faut passer par le point de vue du mythe. Le point de vue du mythe, je crois que c'est très important. Avant le mythe, on découvre le logos. Très bien, ça. Les livres, c'est toute la recherche de Aristote et de Platon. Le mythe religieux et le logos. Intellectuel. C'est quoi une laïcisation ? Le problème de la laïcisation, c'est pas du postulat. C'est pas du tout une laïcisation, c'est une pénétration. Notre philosophie avec Descartes est une philosophie qui veut se laïciser. Ça, c'est vrai. Redécouvrir une indépendance. La laïcisation, c'est redécouvrir une indépendance. Les Grecs n'ont pas du tout cette attitude vis-à-vis du religieux. Ils ont une attitude de pénétration. Pas la même chose du tout. On veut aller plus loin. On se laïcise. On s'oppose pas. On n'a pas une attitude d'opposition vis-à-vis du religieux. On comprend que l'attitude religieuse est fondamentale et nécessaire. S'il n'y a pas cette attitude religieuse, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Parce que l'attitude religieuse, c'est affective. Et le mythe a un élément affectif, indispensable, poétique, symbolique, indispensable. La pensée commence par le symbole. C'est symbolique. Toute pensée symbolique. Le logos veut être une pénétration, aller plus loin. Et c'est très significatif quand on regarde le terme nousia. Platon dit donc, Ousia revient de Hestia, Hestia, la déesse qui demeure. Vous voyez tout le halo affectif qu'il y a dans Ousia quand vous parlez de Ousia, Platon, la déesse qui demeure. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la permanence. Et on comprend très bien quand on veut justement échapper au Pantareil. Le Pantareil est très présent dans Cratyle. Échapper au Pantareil, échapper à ce fait que tout coule. Qu'est-ce qui ne coule pas ? La déesse. La déesse, c'est ça de l'être. La permanence en l'être. Et l'être apparaît tout de suite comme la permanence en l'être. Et alors vous redécouvrez une distinction qui sera très très profonde dans le néoplatonisme et dans sa vie. La distinction entre le temps. Le temps et l'éternité. Et Jean-Guiton a bien saisi, là, il a très bien saisi qu'il y avait une distinction très fondamentale, le temps et l'éternité. Et alors, le temps et l'éternité, c'est que quand vous êtes dans le Pantareil, vous êtes dans le temps. Vous ne pouvez pas descendre deux fois dans le temps. Tout le monde. C'est évident. Ça, vous êtes dans le temps. Comment déplacez-vous le temps ? En découvrant ce qui demeure. Et ce qui demeure est éternel. D'où la grande distinction grecque entre le domaine du corruptible et le domaine de l'incorruptible, l'éternel. Et l'éternel, il est divin. Tout ce qui est éternel est divin. Et donc, vous allez trouver la déesse Estia, Lousia. Lousia a quelque chose de divin. Parce que vous touchez le domaine de l'être. L'être est toujours un peu lié à la déesse. Mais comme on est loin de ça, nous parlons de l'être. Tandis qu'eux parlaient de l'être, c'était quelque chose de sacré. On entrait dans le sacré. On entrait dans un domaine sacré. Au fond, est-ce que l'âme a le droit? Est-ce qu'il y a une religion? Nous, nous parlons de l'âme d'âme. Oui, c'est parmi des gens qui sont. On peut discuter, on peut batailler, c'est le lieu de la bataille, c'est le lieu du mouvement, c'est le lieu de la corruptibilité. Tandis qu'entrer dans quelque chose qui est le secret de l'être, le secret de la réalité, c'est le mouvement. C'est quelque chose d'immortel, c'est le divin, c'est un homme divin. C'est très important de comprendre. Aristote est tout proche de Platon. Platon a déjà été pénétré le logos. Estia, en voyant que Lousia. Lousia, c'est le plus mythique. C'est le domaine de la forme, de l'intelligibilité, c'est le domaine du nous, où on est parfaitement à l'aise, on découvre ça. On découvre ce domaine profond de ce que représente l'intelligibilité profonde. Vous voyez l'intelligibilité profonde. Avant de dire ça, c'est ce qui est. Au-delà de toute corruptibilité, quelque chose de l'homme nous naître. Au-delà des rapides, on rejoint le Parménide, on rejoint toute une grande tradition. Là, le doigt de Parménide va être dit nous avec cette nuance particulière de ce qu'il y a. C'est très important de comprendre que nous est lié à ça, à la présence, à ce qui dure, à ce qui est au-delà du monde. Ce qui demeure, c'est donc l'intelligibilité profonde de la réalité. Vous voyez, nous, nous sommes toujours après ce logos lié au mythe, qui est toujours lié au mythe, ce logos. Alors, toujours lié aux deux, et il faut bien comprendre que les deux sont toujours liés, avec quand même une pénétration particulière du mythe, de ces deux. Alors, on aura la chute terrible, c'est que le logos deviendra progressivement un être de raison. C'est très bien de logique, c'est merveilleux d'avoir des critères logiques. Mais la logique veut s'imposer pour la vie. Alors, comme on est loin, quand on est en face de l'être de raison, comme on est loin du mythe, on est très très loin du mythe. Et l'être de raison n'a plus rien de l'enracinement profond dans la réalité. Alors, l'être de raison comme tel, il n'a pas d'enracinement. Et je crois que la cérébralisation, c'est quand justement on ne voit plus que le logos est le mythe. Nous avons enracinement dans les droits de cérébralisation. Ça, c'est le tragique de la philosophie, de notre philosophie. Notre monde d'aujourd'hui, il faut bien comprendre ça, si on ne comprend pas ça, on ne voit pas. Le berceau de la philosophie, c'est le mythe, c'est le berceau. Alors évidemment, entre deux, il y a eu, mais ça parle bien de la raison. Je crois que c'est Saint Thomas le premier qui en a parlé. Le grand pas d'intention seconde n'est pas d'être de raison. Je suis dans un terme. C'est très intéressant. Intraction, c'est un terme propre à Saint Thomas. Saint Thomas a inventé intraction. Et tout le danger de ça. C'est-à-dire intraction, c'est très très bon aujourd'hui. Parce qu'alors il y a une parenté entre être, saisir et l'être de raison. Très bien, c'est très très bon jeu, et de mettre une écu par an, parce qu'on montait de complaisant, qui est justement celui qui n'a aucun fondement dans la réalité existentielle, et qui ne se fonde que dans la connaissance. L'être de raison, c'est ce que vous êtes capable de créer. Quand on marche, quand on commence à travailler le chapeau, on vit dans l'être de raison. On brasse l'être de raison. On ne comprend plus rien. L'être de raison, c'est le même niveau. On ne voit plus du tout ce fondement dans l'intelligence et on ne voit plus à l'expérience. Vous comprenez que l'expérience, c'est le lien entre le mythe et le levant. Ça fait le lien entre le mythe. Tout le mythe se fonde sur l'expérience, l'expérience religieuse, l'expérience affective et religieuse. Et l'intelligence va essayer de découvrir le levant. Donc, ce sera l'autonomie de l'intelligence. Progressivement, je crois, vous pourrez expliquer comment on a confondu philosophie première et logique. C'est une confusion qui s'est faite par l'éthologie. Par l'oublier. Et c'est très important de comprendre ça. Au cas. Chez moi. On va se rendre science. Je sais plus de problème. Beaucoup de mal sur vous, comme sur la terre. Mais pardonnez-nous. Vous avez bien ce que vous avez fait. Au cas, c'est le 14e siècle. Un bon franciscain. Extraordinaire. Bon franciscain, merveilleux franciscain, très simple. Et dit, mes frères théologiens disent tellement de bêtises et parlent de façon tellement confuse que je vais écrire une logique, une nouvelle logique et une nouvelle logique. C'est un peu le pouvoir de la vie, parce que ça veut dire qu'elle est délivrée. Je vais dire, en cas, les études et les journaux, on travaille sur le manuscrit. Cela est-il, là, c'est le verbe être. Marie prend le verbe être. Il dit Zacharie prend pas le verbe être. Ça, c'est la très grosse différence entre le conjoncteur de Zacharie et le conjoncteur de Marie. Donc, c'est la question que je vais répondre. Comment cela alors, le théologien ne se pose plus la question du tiède. Il se pose la question du pose. La logique. C'est un être qui est fruit du commun. Puisque c'est le fruit de notre manière particulière de connaître. Il n'y aurait pas de logique s'il n'y avait pas d'abstraction. La logique naît de l'abstraction. C'est parce que notre pensée est abstractive que la logique peut naître. Or, l'abstraction, c'est notre manière de connaître. C'est notre comment. C'est pas du tout la finalité, c'est pas du tout le but, c'est pas du tout la vérité. C'est le comment. Et donc, l'être logique naît du comment. Et c'est ça que la chose très curieuse. Alors, comme le théologien, quand il n'est pas assez philosophe, ne voit plus le tiesti et ne voit plus le comment sans l'opposer au tiesti, il tombe dans un certain positivisme. Et le premier positivisme, c'est la confusion de la logique. Je dis bien un certain positivisme. Vous voyez, quand vous regardez le gros positivisme d'Auguste Comte, le positivisme naïf d'Auguste Comte, Auguste Comte dit textuellement, les métaphysiciens, les philosophes cherchent le pourquoi, nous cherchons le comment. Saint Thomas avait dit ça avant, Auguste Comte. Quand Saint Thomas, au début de la somme, il dit que le propre du théologien, c'est de ne pas chercher le tiesti, parce que le tiesti, c'est le Dieu. Mais ça va, le modo non-sens. Voilà l'unité. Le commodo non-sens. Ça, c'est très beau. Le théologien cherche le comment. Et comment Dieu existe. Et le théologien ne peut pas, il fait abstraction, il sait très bien. En tant que théologien, il est pauvre du tiesti. Mais il ne le nie pas. Il sait que le philosophe regarde le tiesti. Il sait que l'intelligence humaine est faite pour le tiesti. Mais il sait que la foi nous demande la pauvreté du tiesti. C'est ça quand même, que la foi est une pauvreté et que la foi est une épreuve. C'est l'épreuve du tiesti, on ne sait pas le tiesti. Le tiesti, c'est le mystère. Le tiesti de Dieu, ça nous échappe complètement. Alors, on ne peut que regarder le commodo. Comment ? Parce que, justement, on est le pauvre. Alors, le pauvre accepte les miettes, sans avoir le pain. Le pain, c'est le tiesti. C'est l'entrée dans le mystère. Et on peut le contempler, le mystère. Et si on parle, on peut parler du commodo. Comment ? Alors, si on ne regarde plus le comment, à un moment donné, vous comprenez bien, la réflexion fait, que l'être est vu dans le comment. Et le jour où l'être est vu dans le comment, c'est le comment logique. C'est le passage entre les deux. Je crois qu'on peut expliquer ce passage au point de vue théologique de cette manière-là. Le jour où le théologien n'est plus contemplatif, le jour où le théologien n'est plus contemplatif, il se mord les doigts. Comprenez bien, il n'est plus contemplatif. S'il est contemplatif, il sait que le mystère lui est donné dans la contemplation. Donc il accepte cette pauvreté grâce à la contemplation. Le statut théologique n'est acceptable que sur les contemplatifs. Si on n'est pas contemplatif, c'est inacceptable. C'est impossible théologique. Si on est contemplatif, c'est très bien, parce que voyez, dans la contemplation, je contemple le mystère. Le mystère m'est donné. Alors, j'accepte de ne pouvoir parler que du comment. Et du comment même cite. Mais le jour où la contemplation n'est plus donnée, donc le jour où la substance nous échappe, on réfléchit plus sur le commodo. Et alors le commodo, on en fait quelque chose de substantiel. Et faire du commodo quelque chose de substantiel, c'est remplacer la métaphysique par la logique. C'est remplacer l'être réel, nous, par l'être réel. Et je crois que c'est le problème du temps. Il y a quand même, je reviens, un rôle extrêmement important. Il a été condamné, c'est pour ça que tout le monde s'est passé là-dessus. Il a été condamné par Avignon, la curie d'Avignon. La curie d'Avignon. La curie d'Avignon, il y avait un dominicain durant sa consacre. 1600. commission pour condamner le gouvernement. Et Cam a été condamné parce qu'en fait, en faisant ça, il risquait de ne plus regarder que le nom. Parce que la logique vous conduit au nominalisme. C'est pour ça que confondre la logique et la métaphysique, c'est le positivisme premier qu'on ne voit plus que le commun. Ceci, c'est pour vous introduire dans le livre Z. Parce que le livre Z est commandé par le TST. Ce n'est pas du tout faux. C'est entièrement commandé par le TST. C'est ça qui est l'intérêt de cette grande, de ce livre Z. C'est qu'on va découvrir la force de cette intervention du TST par rapport à l'être. Et c'est ça qui va être intéressant. Je ne vous dis pas le texte en grec, mais celui grec. Mais ceux qui savent du grec, qui me suivent un peu, à mesure que je vais vous prendre cette traduction, et il essaie, M. Valdès, si vous voulez, je prends cette édition lisible, que j'avais et elle est, je crois, fidèle. Mais je serais tout à fait d'accord qu'une traduction, ça doit tout le temps se reprendre. Donc si vous voyez par rapport à la traduction là, des corrections faites, notez sur le texte, je ne vous dis plus. Ce qui est, le tour, ce qui quoi d'est, ça veut dire est, tout il quoi d'est, je crois que c'est juste. Ce qui est dit de multiples façons. Plusieurs façons, de multiples façons. Donc, vous voyez, le livre Zeta commence tout de suite par une affirmation qui est déjà énorme. C'est énorme de dire ça. Le toi négatif pour la cause. Le toi négatif pour la cause, qu'est-ce que c'est? C'est tout de suite conclure. Non, tout de suite, on présuppose toutes les catégories. Les catégories sont très philosophiques. Vous savez bien que le livre des catégories, je vous ai dit qu'il fallait tout savoir lire les catégories. En première année de philosophie. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez les catégories. Ça, c'est absolument. Et pas lu à toute vitesse, vous devez dire non, non, avec intelligence. Parce que c'est un livre extrêmement fort, fondamental. C'est la propédeutique philosophique. On entre en philosophie en lisant les catégories. C'est très intrusif. Les catégories d'Aristote ont été interprétées de deux manières totalement différentes. Pour les uns, les catégories font partie d'un état physique. Et puis pour les autres, les catégories représentent la logique. Pour saint Thomas, les catégories font partie de la logique. Pour Avicenne, les catégories font partie de la métaphysique. Donc vous avez deux interprétations totalement différentes. Les catégories font partie de la métaphysique. Et bien je crois que c'est minimum, le respect que je vois pour saint Thomas, c'est minimum. Les catégories me semblent être un livre pré-philosophique. C'est pré-philosophique, pour propédeutique philosophique, mais pré-philosophique. C'est ni la logique, ni la métaphysique, et c'est pourtant de la métaphysique et de la logique. Mais alors les catégories, pour ceux qui savent tout petit peu les 10 catégories, les catégories doivent toujours, on appelle prédicament ou catégorie. Hein. Et ça fait que c'est la même chose. Hein. Vous comprenez bien que ces deux termes, tout simplement l'un est grec et l'autre est latin. Alors ça sonne du français. Alors les catégories et les 10 prédicaments. Les catégories uniquement se distinguent de ce qu'on appelle les prédicants. C'est très élémentaire ce que je dis, parce que c'est très élémentaire, il faut tout le temps le dire aux choses élémentaires. Qu'est-ce que c'est que les prédicables? Ce sont les modes particuliers de l'universel. L'universel, comme vous pensez l'universel, pensez tout de suite aux gens. L'universel, c'est un être de raison. Ex ratio. C'est un être de raison. Parce que Est-ce que vous n'avez jamais vu ce crop des universels? Qu'est-ce que vous voyez? Des individus. Allez, là, on s'en va. C'est des individus. L'universel tombe là. Il tombe là. C'est-à-dire que l'universel est là. L'universel, c'est un être de raison. Il n'a pas de couleur, pas d'odeur. Il est merveilleux parce qu'il vient de vous. Il vient de l'homme, c'est la création de l'homme, c'est le genre animal. C'est ça. Vous avez les cinq prédicats. Et les dix prédicats. Vous voyez tout de suite la différence entre les cinq modalités de l'universel qui n'impliquent aucune signification propre. Anima, le genre. Il n'a pas de signification propre. Une fonction. C'est l'intelligence qui connaît selon cette manière-là. C'est le fruit d'une abstraction. L'intelligence, c'est mis à abstraire. C'est mis à classer. On classe par genre les différences cognitives. On classe par espèce. C'est suffisant. Fait par rapport à l'homme, vous ne connaissez pas les autres espèces. Vous connaissez que les propriétés, puis les actions. Vous voyez, les cinq prédicats, vous connaissez parfaitement les genres, différences spécifiques, espèces, propres et actions. Et puis, les prédicaments, eux, impliquent au contraire un contenu de signification. Parce que vous avez la qualité, vous avez la quantité, vous avez la substance. Ça, ça implique une signification, donc c'est un fondement réel. Qui est appliqué dedans. Et ce fondement réel montre comment les catégories sont liées à les pensées philosophiques. Tandis que les catégories ne sont pas liées aux pensées philosophiques. Que je sois philosophe ou pas philosophe, la logique existe. Entre le langage, on trouve les termes génériques, les termes différences spécifiques et les termes philosophique. La logique n'est pas philosophique. La logique est simplement un instrument. C'est un instrument. Organe. La logique, c'est l'organe, c'est l'instrument. C'est que mon intelligence, dès qu'elle touche quelque chose, dès qu'elle connaît quelque chose, immédiatement, elle le connaît selon telle modalité. Elle le connaît d'une manière limite. Et si vous n'acceptez pas ce conditionnement, s'il y a un refoulement par rapport à ce conditionnement, parce qu'on n'aime pas ce conditionnement, seulement ne connaît pas l'universel, vous ne pouvez pas dire directement la vie, je veux dire un esprit intuitif, et c'est dire directement la vie, alors vous refusez. À ce moment-là, ça fait un handicap très particulier, très spécial, parce que vous refusez ce conditionnement de l'intelligence. Les catégories, les prédicats sont dans les catégories, c'est évident. Alors, en sens-là, la logique est présente. Et il y a quelque chose de plus, puisque vous êtes né, vous voulez dire quelque chose du réel. Les dix prédicats veulent dire quelque chose du réel, veulent dire les dix déterminations propres de la réalité, de l'âme. Les dix prédicats sont par rapport à l'âme. C'est les dix déterminations de l'âme. Tandis que les prédicats, c'est le conditionnement. Alors, comprenez bien cette petite phrase d'Aristote, cette petite phrase d'Aristote qui va dire ce qui est dit de multiples façons. Nous met tout de suite en présence du problème des catégories. Les catégories sont autrement dit, c'est présupposé. Si vous ne connaissez pas les catégories, pas la peine de lire les états. C'est présupposé comme nous. Et tout le livre Zeta va présupposer les catégories, va présupposer ces déterminations de l'intelligence catégorique, et va présupposer en plus, nous verrons, tout ce que Platon a dit, tout ce que les sophistes ont dit, pour essayer de saisir qu'est-ce que c'est que la substance. est dit de plusieurs façons, comme nous l'avons distingué précédemment dans les chapitres concernant les multiples acceptions. Ça, c'est les catégories. En effet, il signifie d'une part le « qu'est-ce que c'est » et le « ceci ». D'autre part, une qualité ou une quantité, ou chacune des autres choses qui sont ainsi attribuées. Mais le « ce qui est » étant dit d'autant de façons, il est clair